Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et voici les enjeux internationaux. Narendra Modi était à Paris pour la fête du 14 juillet dernier. C'est pour rendre l'appareil qu'Emmanuel Macron s'est rendu hier à Jaipur, dans l'état du Rajasthan, pour la fête de la Constitution. Une visite d'état d'une durée de 2 jours. Le partenariat stratégique avec l'Inde ne semble pas pâtir des critiques chaque fois renouvelées adressées à l'autoritarisme du gouvernement de Modi. Et pourtant, à la veille de cette visite, une journaliste française était menacée d'expulsion. Comment Narendra Modi continue-t-il d'accroître son influence sur la scène internationale? Bonjour Christophe Jaffrelot.
Bonjour.
Vous êtes politiste et directeur de recherche aux séries Sciences Po. C'est donc la 75e édition de la fête de la Constitution indienne qui est actuellement célébrée en Inde. Est-ce qu'il est possible de parler donc d'un tournant autoritaire du gouvernement et notamment de Narendra Modi?
Le tournant a été pris déjà depuis maintenant plusieurs années. Narendra Modi est à la tête de l'Inde depuis 2014 et on a une inflexion année après année de cet autoritarisme, un renforcement de cet autoritarisme qui se conjugue bien sûr à l'ethno-nationalisme comme d'ailleurs dans bien d'autres pays la trajectoire indienne rappelle très fortement la trajectoire turque, hein, par exemple. Et donc, on a eu en début de semaine, lundi, un grand moment de communion ethno-nationaliste hindoue avec l'inauguration par le Premier ministre Narendra Modi d'un temple qui a été construit sur les décombres d'une mosquée du XVIe siècle où soi-disant le dieu hindou Ram était né à l'époque antique, et cela a été l'occasion d'un grand, on peut dire, rassemblement à travers toute l'Inde. Jamais encore on avait sans doute vu une telle logistique déployée à la fois au plan physique et au plan, bien sûr, immatériel des réseaux sociaux.
Il y a une chose sur laquelle il faut insister, Christophe Jaffrelot. Depuis qu'il a été en politique, notamment lorsqu'il était gouverneur
du Gujarat,
eh bien Narendra Modi a été régulièrement hostile aux musulmans.
Ah oui, c'est son idéologie fondamentale. Alors, on peut même dire avant même qu'il soit à la tête du gouvernement du Gujarat, puisque il appartient depuis l'âge de 7 ans au mouvement nationaliste hindou qui va bientôt fêter son centenaire en 2025, l'an prochain, le RSS. Et c'est un mouvement de type paramilitaire qui a pour idéologie effectivement une xénophobie à la fois anti-musulmane et anti-chrétienne d'ailleurs. Et il faut souligner que les chrétiens sont l'autre minorité visée par les nationalistes hindous. Il y a depuis maintenant presque un an, un mouvement anti-chrétien dans le nord-est de l'Inde dont on parle très peu, symptômes de cette idéologie.
Comment se traduit-il ?
Eh bien, principalement par des violences dirigées contre une minorité, une fois de plus, une minorité qui bénéficiait de discriminations positives, de quotas, et que l'on est en train de priver de cette protection. Et donc, il y a des manifestations, et à ces manifestations, la police a répondu par des tirs sans sommation qui ont fait déjà plusieurs centaines de morts.
Ah oui, parce que je pensais que la politique d'hostilité aux musulmans, elle avait aussi un intérêt géopolitique, puisqu'elle distinguait l'Inde de ses voisins. Mais alors, la politique d'hostilité aux chrétiens?
Eh bien, elle renvoie à la même forme d'idéologie. L'idée de Narendra Modi, mais de tous ses prédécesseurs, car encore une fois, ce mouvement ne date pas d'hier, c'est de faire que l'Inde soit reconnue comme une nation hindoue. Le terme consacré, c'est Hindu Rashtra, Rashtra, d'ailleurs, c'est un mot qui est construit comme Reich, sur une racine indo-européenne, qui fait à nouveau un clin d'œil à ceux qui savent que les langues européennes et les langues indiennes ont une même origine. Le Hindu Rashtra, c'est cette idée suivant laquelle l'identité hindoue s'incarne ou incarne l'identité indienne, que l'Inde est résumée par la civilisation hindoue. C'est d'ailleurs pourquoi on a parlé lundi, lors de l'inauguration de ce temple, d'un tournant civilisationnel. Effectivement, le projet, c'est de revenir à des racines pures qui peuvent débarrasser l'Inde des apports extérieurs qu'elle aura. Apports musulmans, c'est les plus anciens et les plus forts, ils remontent à l'époque médiévale. Apports chrétiens, n'oublions pas que Saint François Xavier est enterré en Inde, que le christianisme est l'une des grandes religions anciennes de l'Inde. On dit que Saint Thomas lui-même est d'ailleurs enterré en Inde. Il y a des chrétiens en Inde depuis des siècles et des siècles. Et donc, l'idée est de ne plus avoir à faire une place à ces apports extérieurs, à ces minorités, et à les transformer en citoyens de seconde zone.
Ouais, puis je l'ai dit, l'autre question est celle qui est soulevée par le sort de la correspondante, notamment de La Croix et du Point, donc la journaliste française Vanessa Dounia, qui était en train d'être expulsée par l'Inde parce qu'elle est accusée de mener des activités malveillantes et critiques. Là aussi, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça raconte sur l'Inde de Modi?
Ah, que les médias sont une cible privilégiée. Alors, par toutes sortes de moyens, de biais, le plus fréquent sur la scène médiatique indienne consiste à faire racheter des chaînes de télévision par des amis du pouvoir. La dernière opération en date dans ce domaine, c'est le rachat de NDTV par Gautam Adani, qui est l'oligarque en chef de ce régime. Mais les correspondants étrangers sont évidemment aussi visés. Et dans le cas présent, on peut quand même souligner le camouflet que cela représente. Menacer d'expulsion une correspondante française deux jours avant la visite d'État du président français, c'est quand même bien montrer que on a maintenant les mains libres et qu'on ne dira jamais quoi que ce soit à l'Inde. D'ailleurs, il faut le souligner, cette visite est un peu un impromptu, au sens où c'était Joe Biden qui devait être l'invité du Republic Day aujourd'hui. Joe Biden a décliné au dernier moment, le mois dernier. On est assez convaincu qu'il a décliné l'invitation parce que l'Inde a été accusée de fomenter l'assassinat d'un opposant sur le territoire américain, comme d'ailleurs l'Inde est accusée d'avoir fomenté l'assassinat d'un opposant sur le territoire canadien, et Trudeau l'a dit publiquement. Il fallait trouver un remplaçant rapidement, et Emmanuel Macron a accepté une invitation de dernière minute. Signe que pour la France, l'Inde est à ce point importante que, eh bien, on avale quelques
couleuvres. Grâce auxquelles on peut vendre des rafales?
Alors, les grands contrats sont le moteur de la relation franco-indienne. Les grands contrats, alors effectivement, d'armes, les rafales, les scorpènes, mais vous avez aussi d'autres opérations. L'Inde a acheté un nombre considérable d'Airbus l'an dernier, et puis il y a toujours dans les dossiers en cours la vente d'EPR. Alors on en reparlera sans doute. Oui, les grands contrats sont le moteur de la relation. Alors ça s'inscrit dans le cas d'Emmanuel Macron dans sa stratégie indo-pacifique, c'est-à-dire que l'Inde est le grand pilier d'une géopolitique prioritaire, d'un agenda géopolitique et géostratégique prioritaire qui est celui de l'Indo-Pacifique. Et lorsqu'il était allé en Inde en 2018, d'ailleurs, l'un des grands temps forts de la visite avait été un accord sur l'accès mutuel aux bases militaires, la Réunion pour la France, Djibouti aussi, et puis d'autres bases côté indien. Donc on est vraiment sur une relation qui contraste fortement avec celle que l'Allemagne a réussi à mettre en œuvre avec l'Inde, puisque du côté allemand, c'est beaucoup plus de la coopération économique. Il y a bien sûr des acteurs économiques côté français, mais ils sont plutôt dans ces secteurs stratégiques. Et puis l'autre chose que l'Allemagne a réussi et que nous peinons toujours à réussir, c'est les échanges avec la société civile et notamment les étudiants. L'Allemagne a mis le paquet à 45 000 étudiants indiens maintenant dans ses universités, tandis que la France est toujours à une dizaine de milliers.
Bien, ben voilà, donc couleuvre contre grand contrat. Merci Christophe Jaffrelot. Je rappelle que vous êtes politiste et directeur de recherche aux séries Sciences Po, spécialiste de l'Inde. Dans quelques instants, Alexandra Delbo va nous expliquer comment les nourrissons apprennent à se servir d'outils.